Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
La chronique m'aide à survivre à tout. C'est un fil à la patte, mince et résistant. Sa force doit naître, j'imagine, de sa limite. Elle m'aide à vivre comme si rien n'avait eu lieu. En me ramenant à l'éphémère, à la miniature, elle m'autorise l'insouciance née de l'habitude et pourquoi pas une certaine immortalité, l'appréciable immortalité d'un courant d'air. Souffle, Philippe Lançon, en préface de ses chroniques de l'homme d'avant, parues en novembre aux éditions Les Échappées, qui rassemblent le meilleur de ce qu'il a publié dans Charlie Hebdo depuis 2004 jusqu'à l'attentat du 7 janvier 2015. Pour celles et ceux qui l'ignorent, mon invité d'aujourd'hui était là, dans la salle de rédaction, ce matin de terreur, puis de silence et de sang, touché à la mâchoire, ce qu'il raconta dans Le Lambeau, paru en 2018, au fil d'une introspection bouleversante qui convoque tous les événements encadrant la tragédie, en laissant libre cours à ses associations d'idées, tout en observant à la loupe son très long processus de reconstruction physiologique, psychologique, amicale ou sociale, après plus d'une vingtaine d'opérations chirurgicales. Et tandis que ce récit, d'une force littéraire extraordinaire, vendu à plus de 300 000 exemplaires, vient de sortir en poche, Philippe Lançon s'attarde aujourd'hui sur sa définition d'un journal vivant, sur les menaces qui continuent de peser sur Charlie, dont, écrit-il, l'encre sèche dans l'air de la farce et de l'irrespect, sur la place occupée dans son imaginaire par Sandrars ou Rimbaud, sur les romans dont il rêve mais qu'il n'écrira pas, lui qui, depuis le drame, a beaucoup de mal à lire et à écrire de la fiction. Ce qu'il nous confie au cours de cette conversation en deux épisodes d'une heure, dont voici la seconde partie. Et ce qui rappelle aussi ce passage poignant du Lambeau. Quand j'écrivais au lit, avec trois doigts, puis cinq, puis sept, avec la mâchoire trouée, puis reconstituée, avec ou sans possibilité de parler, je n'étais pas le patient que je décrivais. J'étais un homme qui révélait ce patient en l'observant et qui contait son histoire avec une bienveillance et un plaisir qu'il espérait partager. Je devenais une fiction. C'était la réalité, c'était absurde et j'étais libre. Cette activité se payait naturellement sur la bête. Je finissais chaque chronique, épuisé, suant, toussant, larmoyant. Le patient ressuscitait d'entre les mots. Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova que vous retrouvez chaque dimanche de 12h à 13h. Bonjour, Philippe Lançon.
Bonjour.
J'aimerais évoquer avec vous le Charlie Hebdo d'aujourd'hui, qui n'est plus, je vous cite, « guerre soutenue ». Voici ce que vous écrivez à ce sujet dans vos chroniques de l'homme d'avant. « Ce journal ne l'est plus guère soutenu. » Ni par l'extrême gauche et une partie des vestiges de la gauche qui continue de le considérer comme islamophobe, voire raciste, ni par la plupart des intellectuels, artistes, gens de culture de toute espèce qui le trouvent de mauvais goût, ni par la droite, parce que ça reste un journal de gauche agressif, anticlérical, anticapitaliste et anticonformiste, ni par la plupart de ceux qui l'ont acheté après le 7 janvier et qui, une fois l'élan de solidarité retombé, ont compris que ces dessins, ces textes n'étaient pas vraiment leur genre. Qui est Charlie aujourd'hui, Philippe Lançon ?
Ben, c'est de nouveau un petit journal satirique, avec une équipe évidemment largement renouvelée, qui a en quelque sorte bénéficié d'une purge stalinienne le 7 janvier. Vous savez, Staline, quand on est en dictature, il n'y a pas un renouvellement qui se fait par la démocratie. Donc qu'est-ce qu'il faisait Staline ? Il liquidait une génération et puis il en mettait une autre à la place. Là, c'est les tueurs qui ont liquidé quand même une bonne partie d'une génération. Et donc, pour que le journal continue, d'autres sont arrivés, d'autres dessinateurs avant tout, plus jeunes. Voilà. Et donc, ce journal continue. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'esprit reste. C'est-à-dire de se moquer de tout. Oui, de se foutre de tout. Et c'est là que, évidemment, c'est compliqué. Parce qu'en même temps, Charlie n'est plus seulement Charlie. C'est-à-dire que c'est la victime des attentats du 7 une des victimes des attentats du 7 janvier est la grande victime symbolique. Finalement, la société attend d'une victime qu'elle se comporte bien, quoi. Qu'elle rentre après s'être essuyé les pieds, qu'elle ne mette pas, vous voyez, les doigts dans la tasse, etc., etc. Mais ça, Charlie ne peut pas le faire, puisque ce n'est pas Charlie, ça. Et donc, il est pris dans cette contradiction qu'il soulève, à mon avis, enfin, qu'il relève et qu'il essaie de dépasser en continuant à faire ce qu'il a toujours fait, de manière parfois extrêmement brutale, sans doute très peu politique, dans un monde où la politique joue beaucoup, et toujours sur j'aime pas le mot valeur, sur des principes qui sont les siens. Le problème, c'est qu'autour, on voit bien, tout a changé. Même les frontières à l'intérieur de la gauche ne sont plus les mêmes, les frontières à l'intérieur de la droite non plus. Mais pour ce qui concerne, par exemple, la gauche, qui est quand même plutôt la famille naturelle de Charlie, on voit bien que tout a explosé sur un certain nombre de points, dont l'islam, mais pas seulement. Enfin, en restant arc-bouté sur ses principes, Charlie, évidemment, se confronte à une société qui, avec les nouveaux critères, le range dans des cases qui ne sont pas celles auxquelles l'équipe croit appartenir. Ouais, je ne sais pas si je suis clair. Et donc, c'est compliqué. C'est une situation très compliquée qui rend ce journal, effectivement, assez solitaire. Il l'est de toute façon par le destin qu'il a vécu, parce que ce que nous avons vécu le 7 janvier... je ne souhaite évidemment à personne de le vivre. Et par ailleurs, de toute façon, même si on a été énormément soutenus, en tout cas à l'époque, et si moi je l'ai été beaucoup, je l'ai été d'une part comme patient, comme ami, par la profession, les gens de la et même dans le monde de la culture, les gens m'ont discrètement et énormément soutenu. Et par ailleurs, ensuite, comme écrivain, parce que le Lambeau a eu énormément de lecteurs. Donc, on peut dire que je ne me suis pas senti seul. Et pourtant, évidemment, un événement comme ça isole celui et ceux qui l'ont vécu jusqu'à la fin de sa vie et de leur vie.
Plusieurs piliers du journal l'ont quitté ces dernières années parce que c'était, je crois, trop douloureux pour eux. Les dessinateurs Luz et Catherine Meurice, l'urgentiste Patrick Peloux. Vous êtes toujours là parce que, comme vous l'écrivez, la souplesse et le bavardage millimétré de la chronique m'aident à survivre à tout. C'est ça ?
Oui, c'est comme je le dis, je crois, dans la préface, c'est une frêle embarcation. Et une petite embarcation, et comme vous savez, quand il y a des grosses tempêtes, les toutes petites embarcations, elles finissent toujours comme les coques de noix par remonter à la surface. Donc, c'est un modèle qui me convient, dans lequel je peux m'exprimer en essayant aussi de me mettre en garde contre moi-même, c'est-à-dire justement à ne pas jouer à l'éditorialiste, ce que je ne prétends pas et ne veux pas être. Voilà. Et effectivement, dans un journal qui me le permet... Ce qui fait aussi que pour moi, la question de partir de Charlie ne s'est pas posée comme pour Catherine, qui est une amie, ou vous voyez, c'est que après le 7 janvier, moi j'étais à l'hôpital et je l'ai été pendant 9 mois. Donc j'étais loin du journal à un moment où je crois que ça a été évidemment épouvantable pour tout le monde. Vous voyez. Moi c'est le journal où j'ai pu écrire mes chroniques étant à l'hôpital. Qui ne sont pas dans ce recueil, qui étaient des chroniques, qui étaient les chroniques de la reconstruction. Hein, vous voyez, et presque en direct, en tout cas en léger différé, semaine après semaine, où je donnais à la fois de mes nouvelles et des nouvelles du monde hospitalier qui m'entourait. Et ça a été là un moment formidable, puisque la souplesse de cet espace a fait que j'ai pu de nouveau transformer la chronique. J'en ai fait encore tout à fait autre chose que ce qu'on peut lire dans Chronique de l'homme d'avant. Voilà, c'est un espace très souple et que Charlie m'a vraiment permis de faire évoluer de manière, à mon avis, enfin, rare, quoi. Enfin, et donc, évidemment, donc moi j'avais, et j'ai toujours de la gratitude pour ce journal qui m'a permis de faire ça, et j'espère qu'effectivement les lecteurs ont suivi. Chacun a réagi par rapport à cet événement et à ses conséquences avec ce qu'il vivait à ce moment-là. Vous voyez ? Et par ailleurs, les quatre blessés survivants du 7 janvier, aucun des quatre n'est parti. Voilà.
Nova Bookbox, parfois une page suffit.
Yaz, gazetesi, yaz, littéralement, en turc, écrivez, journaliste, écrivez. Soit un appel à la prise de conscience de la crise sociopolitique qui frappait la Turquie dans les années 70. Selon la chanteuse, compositrice et guitariste Selda Bakkan, l'une des figures du rock psychédélique national. Écrivez, journaliste, écrivez, oui, mais Philippe Lançon.
Est-ce qu'il y a encore des conférences de rédaction à Charlie ?
Oui, oui, il y en a le mercredi.
Sous haute sécurité,
oui.
Je suppose.
Oui, oui, c'est... oui, oui, oui.
Où finissait le tact, où commençait la provocation ? Faites-vous se demander à un lecteur de Charlie dans le métro qui n'ose pas déplier le numéro d'après les attentats, avec ce dessin de Mahomet par Luz, qui dit que tout est pardonné. Sincérité ou posture, courage ou inconscience ? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez, parfois personnellement pour vous, ou au nom de l'équipe, est-ce que c'est du courage d'être membre de la rédaction de Charlie Hebdo aujourd'hui ?
Encore une fois, avec la posture morale, moi j'ai toujours des problèmes. Donc dire je suis courageux, non, d'abord c'est pas... Si effectivement moi ou un autre l'est, c'est vous autres de le dire, mais c'est pas à moi. Mais j'ai pas, moi je le vis pas comme ça. Pour moi, c'est naturel. Je viens d'un monde que vous connaissez à Nova, où quand même la liberté, c'est la valeur cardinale. Mm-hmm. Donc moi, en ce moment, il se passe des choses qui me choquent énormément. Au nom de la morale, on commence à restreindre la liberté de s'exprimer, de dire des choses, de créer des œuvres. Enfin, c'est absolument insensé, ou d'aller les voir. Moi, je suis de ma génération et des journaux dans lesquels j'ai travaillé, c'est-à-dire essentiellement Libération, et Charlie, et l'événement du jeudi à un moment donné. Donc c'est des journaux où nous étions libres de travailler, de nous éveiller, d'être curieux, de tout ça. Et je prétends continuer à vivre comme ça et à travailler comme ça. Donc je vois bien que l'atmosphère générale est en train de changer, mais moi je ne changerai pas. Voilà.
Est-ce que vous recevez, vous et collectivement la rédaction, toujours des menaces à l'encontre de la rédaction?
Oui, il y en a tout le temps, des insultes, des menaces de mort, toutes sortes, vous voyez, des choses à Charlie, il y a des gens dans ce journal qui ont du talent. Et donc, un certain nombre de gens, je vois très bien, qui ne comprennent pas ça, en fait. Ils ne voient que le... Ils ne voient pas la forme, ils voient le message, enfin, ce qu'ils croient être le message. Mais comme le message n'est compréhensible que par la forme dessinée qui lui est donnée, il passe à côté. Donc, il y a eu une grosse polémique ces jours-ci, parce que Biche a fait un dessin dans lequel il fichait des
militaires français.
Ouais, mais il fichait pas des militaires, il fichait des slogans publicitaires de l'armée.
Et donc,
il fait comme toujours, il fait choquer la mort des hommes au Mali, qui sont effectivement, c'est triste, c'est gens jeunes qui sont morts dans des conditions horribles, enfin, etc. Et il le fait choquer avec les
slogans de recrutement.
La campagne de recrutement. Et donc, évidemment, ce qui est frappant dans les réactions, c'est que, décidément, les gens, il y a tout un tas de gens qui ne comprennent pas le second degré. Ils n'ont qu'une case. Donc, c'est une case à la fois. Le dessin de caricature, de presse, quand il est réussi, ça ne fonctionne pas avec une case. Ça fonctionne au moins avec deux cases, parfois avec trois ou quatre. D'un terme savant, c'est ce qu'on appelle la polysémie, la multiplication du sens. Et donc, il n'y a rien à faire. Je me souviens qu'après les attentats, Luz avait fait un dessin où il expliquait, je crois qu'il est encore sur le site de Charlie, les caricatures en plusieurs dessins, c'était très très drôle. Et il expliquait la caricature pour les nuls, quoi. Et en fait, évidemment, il comprenait en l'expliquant que malheureusement, ça ne s'explique pas. C'est comme une blague. Si vous faites une blague, si vous, en face de vous, les gens ne rient pas, soit c'est que la blague est mauvaise ou vous ne savez pas la raconter, c'est tout à fait possible. Soit c'est qu'en face de vous, vous avez des imbéciles. Et dans les deux cas, il n'y a rien à faire. Donc en fait, il faut, si on sait raconter des blagues ou les dessiner, il faut continuer à le faire en espérant qu'on aura les lecteurs pour le comprendre. Et puis si on est mauvais, de toute façon, on n'aura plus de lecteurs et le journal fermera. Vous voyez, c'est aussi simple que ça.
Est-ce que je peux vous demander de lire quelques lignes, votre définition d'un journal vivant? Elle date de 2006 et c'est à propos de Libération.
Ah, qui est toujours mon journal.
Nova Book Box. Le jukebox littéraire de Radio Nova.
Qu'est-ce qu'un journal vivant? Un journal où il y a toujours plus d'idées que de peurs, d'imagination que d'erreurs, de liberté que de préjugés, d'informations que de répétitions, de mauvaise foi que de bonne conscience, de culture que de commerce, de morale que de moralisme, de désordre que d'ordre, d'agressivité que de regret, d'alceste que de filinte, de lendemain que d'avant-hier, d'amant curieux que de bon père de famille et d'énergie que de ressentiment. C'est enfin et surtout, dans le cas de Libération, un journal où il y a toujours plus de désir que de lassitude.
Vous persistez, vous signez?
Oui, je persiste et signe. Il y a beaucoup de jeunes maintenant à Libération et j'ai pas du tout l'impression qu'ils soient couverts de lassitude.
Nova Book Box. Le jukebox littéraire de Radio Nova.
Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous savez tout et bien pire, mais vous ne pouvez le dire. Moi, ce que j'avais compris, le rêve n'est pas fini quand le rêve est ça. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes. Et toi, tu regardes ton chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu dessines des bonhommes. Et toi, tu colles ton chewing-gum sur ma tête. Sur ma tête. Je sais qu'il existe une forêt oubliée, mais je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas lire en toi, en toi.
Kilomètre. Vous ne savez rien des migrants, des guerres civiles au Soudan, le Bataclan et Charlie. Vous n'avez pas tout saisi, ce que vous avez compris. Le rêve n'est pas fini quand le soleil dort. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi, tu parles avec un chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas, ce que je vois, ça met en joie, tu fais planer des bagnoles, et toi, tu fais le rossignol. Dans ma tête, c'est la fête.
Tiré de son dernier album intitulé Confession, Catherine et ses bonhommes, hymne au dessin instinctif, sans censure, qui se pique même de citer le Bataclan et Charlie. Charlie Hebdo, où mon invité d'aujourd'hui, le journaliste et écrivain Philippe Lançon, l'auteur du Lambeau, tient depuis 2004 une chronique dont les meilleurs moments viennent d'être rassemblés dans l'ouvrage Chronique de l'homme d'avant aux éditions Les Échappées.
Nova Book Box, sous les couvertures, des personnages au poil.
Dans une chronique de 2005, vous citez Racine. Vous connaissez le vers en question par cœur ?
Rappelez-moi.
Des lambeaux pleins de sang,
ah oui,
et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux. À la relecture, ça vous a troublé, le mot lambeau ?
Oui, ça m'a troublé, mais comme il se trouve que c'était quelque chose sur lequel j'avais déjà réfléchi quand j'ai écrit Le Lambeau, ces vers d'Attali.
Et non pas de Jacques Attali, bien entendu.
Non, c'est le songe d'Attali. Et d'abord, ils sont très beaux, et puis voilà, c'est une page de la littérature française. Et oui, comment dire, on a tout de même vécu, et j'ai vécu donc avec les autres, le 7 janvier 2015, quelque chose qui s'apparente à un rêve, à un cauchemar, et qui s'est trouvé être la réalité. Et le songe d'Attali, au moment où elle fait ce songe, en fait, anticipe son destin tragique. Elle ne va pas être défigurée, etc., mais ça anticipe sa fin. Et donc, effectivement, ça m'a frappé de comprendre, de relire ce texte et de voir à quel point les lambeaux circulaient dans le texte à la fois au sens propre et au sens figuré. Moi, je l'ai vécu au sens propre, mais dans une situation qui est presque... qui est folle, c'est-à-dire une situation dans laquelle le symbole devient la réalité. De même que quand les tueurs ont quitté Charlie, ils disaient « on a tué Charlie ». Pas on a tué les hommes de Charlie, on a tué Charlie. Donc ils avaient tué un symbole, mais en fait ils avaient tué des hommes. Et en fait, au moment où ça a eu lieu, moi je me suis retrouvé comme les autres avec à ce moment-là en tout cas, une vie en lambeaux, et en plus avec un trou à la place du menton qui allait devenir un lambeau. Donc voilà. Après, je me suis contenté d'assembler en quelque sorte ces pièces sans en tirer une morale. D'ailleurs, je ne sais pas laquelle j'en tirerai. Vous voyez, je crois, malheureusement, je ne suis ni philosophe ni à proprement parler intellectuel, et donc j'ai du mal à penser des situations, et en particulier des situations extrêmes comme celle-là. Moi, ce que je peux faire, c'est les décrire et essayer de les décrire le plus possible de l'intérieur. Moi, c'est ça mon travail d'écrivain.
Dans les chroniques de l'homme d'avant, tout comme dans le Lambeau, le nom d'un écrivain revient à de très nombreuses reprises. Ce n'est jamais lui le sujet central, mais vous y faites référence en passant, ce qui me laisse penser qu'il est capital pour votre imaginaire. Vous savez à qui je pense, là ?
Oui, il y en a. Proust ?
Non.
Non ?
Deuxième essai ?
Non, mais je ne sais pas.
Rimbaud ?
Oui, Rimbaud, ouais, ouais.
Alors, est-ce que vous pourriez me raconter quel impact le fugueur perpétuel de Charleville-Mézières, le voyant météore, a eu sur votre vie d'homme et d'écrivain ?
J'avais le petit Poésie Gallimard.
Les œuvres complètes.
Ouais, des œuvres complètes. Là. C'est court, hein, les œuvres de Rimbaud.
Moins de 200 pages, rappelons-le, écrites voilà. En moins de 5 ans.
Et pendant, à la fin des années 80 et au début des années 90, j'ai beaucoup voyagé pour mes reportages, en particulier dans les pays arabes, à ce moment-là, au moment de la première guerre du Golfe. Et, voilà. Et ce volume m'a accompagné partout. Et en fait, c'était une période où qui était quand même extrêmement intense pour moi d'un point de vue... J'étais un jeune journaliste, je voyageais dans des pays parfois en guerre, des pays chauds, je vivais parfois chez l'habitant, enfin c'était vraiment... Voilà, c'était comme ça. Et Rimbaud, si vous voulez, il avait une double vertu, c'est-à-dire qu'à la fois, il enchantait le monde, mais il l'enchantait en connaissance de cause. C'est-à-dire, en même temps, en le désenchantant. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a chez Rimbaud ce double mouvement, c'est-à-dire l'enchantement, il est en fait par la sensation, et le désenchantement, il est par la connaissance.
Plus on connaît le monde, plus on est désenchanté.
Bah, disons que dans le cas de Rimbaud, sa vie elle-même est une sorte de violent désenchantement, mais tellement intense qu'il en est presque magique. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que tant de personnes, tant d'écrivains courent derrière lui, vous voyez, comme des lapins dans la nuit. Là. Mais en même temps, on ne peut pas dire ça sans parler de la sensation, parce que, vous voyez, l'aube d'été, chez Rimbaud, ce qui rend la présence sur la Terre possible, c'est précisément cet éveil permanent par la sensation, cette recherche presque folle de connaissances qu'il applique à tout ce qu'il croise. Il ne faut jamais oublier qu'il va en Angleterre, il apprend l'anglais, comme c'est évidemment une espèce de génie, il apprend très vite. En Allemagne, il apprend l'allemand. Et c'est quelqu'un, il travaille Rimbaud. C'est un esprit qui est perpétuellement au travail. Et après, quand il vend des armes et quand il est, etc., etc., là aussi, il travaille. Dans ses lettres, on voit très bien.
Il commande beaucoup d'ouvrages et,
oui, oui,
des objets techniques. Voilà, il va prendre la photographie, voilà. Il commande des appareils photo.
Il est très précis. Il ne veut plus d'un monde qui était le sien à ce moment-là, en particulier le monde des hommes de lettres, de gens qui se racontent des histoires, vous voyez, qui sont là, qui jouent les dandys dans Paris, etc., etc. Et Rimbaud, et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il annonce la science moderne, mais en même temps, il garde toute la violence des sensations. Et puis, par ailleurs, c'est aussi quelque chose que j'aime, c'est un jeune homme très cultivé. C'est-à-dire, cette idée que pour être révolutionnaire, finalement, c'est un révolutionnaire. Il faudrait pour faire table rase, c'est bien de savoir de quoi on fait table rase. Rimbaud, c'est quelqu'un qui a eu des premiers prix de poésie latine, qui connaît absolument parfaitement la poésie française, et depuis bien longtemps.
Avant ses 15 ans, en fait.
C'est un génie, hein, ouais, ça, ouais. On est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de penser que l'esprit qui a été peut-être l'un des plus révolutionnaires de son temps, pas peut-être, qu'il l'a été, est aussi l'un des plus cultivés, enfin, vous voyez, donc et un des plus travailleurs. Donc je pense qu'il y a toujours quelque chose là-dedans qui continue à attirer, parce que on peut pas être quelle qu'ait été sa vie, on peut juger moralement sa vie, etc. Mais on peut pas être à la hauteur de Rimbaud. Mais il nous montre qu'on ait une perspective révolutionnaire, qu'on ait une perspective de connaissance, ou qu'on ait une perspective d'être au monde par la sensation. Il pousse les compteurs à fond.
Je vous cite à propos de ce galopin galopant.
Rimbaud a fait un mal terrible à l'adolescence, son génie l'a surévalué. Il nous a permis de croire qu'elle était un âge intelligent et un grand moment de vérité, un négatif de l'hypocrisie et du sentimentalisme du monde. Ses poésies et son destin nous ont appris quel était cet âge difficile dont l'idéal eût été de ne jamais sortir. Le 68-ardisme a transformé sa vie en posture, il a fallu un siècle et pas mal d'exégètes, mais nous y sommes. Tout se passe aujourd'hui comme si chaque adolescent était plus ou moins Rimbaud, une bouche d'or à la fonte par qui le scandale et la vérité arrivent.
Oui, oui, bah, en même temps, je vois en le lisant que ça peut paraître les propos d'un vieux con. Mais en vérité, pour moi, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est que la facilité à se prendre pour Rimbaud, c'est l'assurance de devenir un vieux con. Parce que c'est reproduire un modèle qui n'est pas reproductible. Mais en revanche, on peut le lire pour toujours se remettre en cause soi-même, dans les postures qu'on a au moment où on l'a. Et les adolescents, ils sont pleins de postures. Et en plus, c'est des postures qui sont généralement apprises. J'ai été adolescent, je m'en souviens très bien, et je me souviens très bien de ce que c'était autour de moi. Donc c'est vraiment le règne du groupe, en général, et du faire comme les autres. En étant dans un malaise profond soi-même.
Et lui, il enseignait, tout en étant dans un malaise profond, à n'être que lui-même.
Bah, en tout cas, oui, à chercher. Donc, c'est quelqu'un qui cherche. Voilà, il le dit mieux que ça, mais il faut bosser pour être voyant. Mais en fait, il nous continue à nous montrer plein de choses. Et en même temps, avec une poésie qui exige beaucoup de travail du lecteur. Parce que peut-être dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui ne l'ont pas lu ou pas beaucoup. Dire qu'il est facile, ça c'est faux.
Ouais.
Ouais, non, ce n'est pas du tout un poète facile. Et il a une sorte de lyrisme intérieur très fort. Et parfois, il y a quelque chose de prodigieux même dans son lyrisme. Mais en même temps, il le casse en permanence. Et donc, on a tous besoin, on est ici dans une radio, on écoute beaucoup de musique, on a besoin de la musique. Vous voyez ? Mais lui, la musique, Dieu sait s'il est capable d'en produire, mais en même temps, il la brise en permanence. Hein, en disant, vous ne laissez pas aller aux facilités sentimentales que la musique des vers va vous apporter. Vous laissez pas avoir. Il y a un poème magnifique, ce qu'on dit au poète à propos des fleurs, qui est un vrai chef-d'œuvre. Où il parle des lys comme des clistères d'extase, et avec les bassets qui vont pisser dans les plates-bandes, etc. Donc il rabat l'imaginaire des fleurs, qui était très en vogue évidemment au XIXe siècle, sur des choses très concrètes, soit en faisant des images qui aurait pu être dans Charlie, finalement, très grotesque, hein, les lys, clistères d'extase, soit en les mettant au niveau de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des plates-bandes où les chiens vont pisser, c'est-à-dire la réalité quotidienne où sont les fleurs dans une ville.
Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Música.
beijou sua mulher
como se fosse a única.
E cada filho seu
como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos lotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
E tropeçou no céu como se ouvisse música.
E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago.
Morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plácidas.
Certo pra descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Pelos andaimes fingentes que a gente tem que cair.
Sont construits petit à petit, mot à mot, brique par brique, des articles, des romans ou des émissions, voire des chroniques en forme de chansons comme cet hallucinant Construção, signé par le Brésilien Chico Buarque avec Rogério Duprat et les chœurs du groupe MPB4, génie absolu des harmonies, luxuriance malade des arrangements et paroles se déstructurant peu à peu pour peindre en 1971 le portrait déchirant d'un ouvrier qui décide d'en finir en se jetant d'un immeuble. La musique populaire au sommet, afin de tracer la dernière journée d'un maçon qui s'écrase au milieu du trafic. La même histoire est ensuite répétée inlassablement, en changeant la fin de chaque phrase, comme une chronique donc, cet exercice journalistique si prisé par mon invité.
Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Philippe Lançon, peut-être qu'il faut préciser aux auditeurs que je suis nu. J'ai déjà pris mon bain. Je me frictionne à l'eau de Cologne. Un voilier lourdement secoué passe dans mon hublot. Il fait froid ce matin. Je range mes papiers. Il y a de la brume. J'établis un horaire. Mes journées seront bien remplies. Je n'ai pas une minute à perdre. J'écris. Je m'écarte un moment de votre dernier livre parce que j'aimerais vous entendre me dire ce que ce type de petit poème signé Blaise Sandrars, écrit par exemple à bord d'un paquebot où il a embarqué au Havre pour le Brésil en 1924, ce que ce type de petit poème vous ont fait à 15 ans.
Ben, ces poèmes, là encore, c'était les poésies Gallimard. Il y avait deux petits volumes très minces. Le premier s'appelait Du Monde Entier et le second Au Cœur du Monde. Et je les ai achetés à la Fnac Rennes avec mes petits sous. C'est parmi les premiers livres que j'ai achetés. Ma mère m'avait donné, je ne sais vraiment pas du tout pourquoi, comment il avait pu atterrir dans sa bibliothèque. Elle avait un livre de Blaise Sandrars qui s'appelait L'Homme Foudroyé. Et donc je l'ai lu. Un peu par hasard, vous voyez, et donc voilà, ça m'a. Bah, il a fait, c'est banal, hein, ce que Sandra a fait à beaucoup de ses lecteurs, il m'a fait voyager. Mais c'est vraiment dans ses poèmes où il part au Brésil et en particulier sur ce paquebot que pour moi ça a été vraiment l'essence du voyage, c'est-à-dire en très peu de mots faire comprendre à la fois l'espace traversé. Et en même temps, et donc l'ouverture au monde, mais finalement dans une cabine de bateau qui pourrait être la tête de l'écrivain, quoi, vous voyez. Qui pourrait être aussi une navette spatiale, vous voyez. C'est-à-dire, il nous amène très très loin avec très très peu de choses, et en même temps nous fait sentir tout ce qu'il est, c'est-à-dire l'espace clos qu'est un auteur, toujours aussi, quoi. Donc ça, c'était très très fort. Je ne suis jamais allé au Brésil. Je suis allé en Amérique latine, mais pas au Brésil. Et voilà, c'est bizarre d'ailleurs, mais je pense que c'est peut-être. Je suis pas sûr d'avoir envie d'aller dans un pays où Sandrars m'a amené.
Non.
Non,
je suis pas. Pour pas gâcher cette image.
Bah, vous savez, on disait quand il a écrit la prose du Transsibérien, l'histoire fameuse, on se demandait s'il l'avait vraiment fait ce voyage. Et à quoi il avait répondu, qu'est-ce que ça peut vous foutre puisque je vous y ai tous amené.
J'aimerais maintenant, Philippe Lançon, vous entendre nous raconter l'histoire du crâne de Schiller qui figure dans votre recueil.
Ah oui, le crâne de Schiller, ouais. Dans la littérature, il y a des très grandes histoires d'amitié. Et il y a eu une amitié très très forte. Et qui réchauffe le cœur, quoi, entre Goethe et Schiller. Donc, on peut penser à travers leur correspondance que ni l'un ni l'autre ne serait devenu ce qu'il a été sans son compagnon. Et donc, Goethe voulait, avait dit à Schiller, avait écrit à Schiller que s'il mourait, quand il mourrait, il voudrait que Schiller, donne vie à des projets qu'il avait, qu'il n'aurait pas pu réaliser. Mais c'est Schiller qui est mort le premier. Et donc, Goethe a fait déterrer, il a été enterré, et ses ossements, il les a fait déterrer. Et il a gardé son crâne et il a écrit toute la fin de sa vie avec le crâne de Schiller en face de lui.
Avec le crâne de son copain sur le bureau.
Le crâne de son copain sur le bureau. Donc, une sorte de. Est-ce que c'était Hamlet contemplant le crâne de Yorick? Ça, nous n'en saurons rien. Mais toujours est-il que voilà, ce crâne a été là. Ensuite de quoi il a été mis dans une bibliothèque fameuse, qui était une très très grande bibliothèque en Allemagne. Et en 2004, cette bibliothèque a brûlé.
Perte du crâne de Schiller.
Non, il y a eu 15 000 volumes, je crois, qui ont été brûlés, des choses extraordinaires du 15e, 16e, 17e siècle. Et le crâne en a réchappé. Et à ce moment-là, il a été étudié par des scientifiques. Et par toute une série, évidemment, depuis l'ADN, etc. Et ils avaient de l'ADN des gens de la famille de Schiller. Enfin, bref, ils ont conclu au fait que ce n'était pas le crâne de Schiller.
Et que le vrai est peut-être quelque part.
Le vrai quelque part. On ne sait pas ce qui s'est passé. À quel moment est-ce qu'il y a eu une inversion? Ou est-ce que c'est simplement, mais le plus probable, c'est que c'est simplement que le crâne que Goethe a fait déterrer n'était pas le bon. Mm-hmm. C'était pas le bon endroit, puisque c'était un cimetière commun. Enfin, mm-hmm. Et donc, tout simplement, cette idée que Goethe a contemplé toute sa vie le crâne de son ami, qui n'était pas son crâne, au fond, c'est pas très grave.
Parce qu'il a écrit quand même.
Il a écrit quand même, et il a pensé à lui. Et voilà, il avait finalement... Et ce qui était important, c'est que Goethe croit que c'était le crâne de Schiller. Donc j'avais fait un texte autour de cette histoire qui était... dont quasiment personne n'avait parlé à ce moment-là, en tout cas, surtout pas en France. Et alors, il se passait je ne sais plus quel événement très très important à ce moment-là. Et donc ça, c'était pour moi aussi exemplaire de ce qu'on peut faire dans une chronique, c'est-à-dire vraiment le pas de côté. Mmh.
Qui est votre Schiller ? Le confrère ou la consoeur écrivain ou journaliste avec lequel ou laquelle, grâce auquel ou à laquelle, vous avez l'impression de vous élever?
Je n'ai pas de... Puis alors, Dieu me préserve de finir avec un crâne devant moi, mais je n'ai pas de... Et je ne sais pas d'ailleurs s'il y a actuellement entre écrivains des correspondances comme ça assidues qui permettent de se développer. Mais il y a une personne, effectivement, mais qui m'est intime, qui m'aide à, je crois, à m'améliorer, ouais. À la fois sur le plan personnel et sur le plan, mais les deux vont ensemble, sur le plan, j'allais dire, du naturel, de l'observation et de la restitution. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui est écrivain, mais qui m'est très très proche, et avec qui, on s'écrit beaucoup. Et donc, ouais, cette personne m'apprend énormément. Ouais.
Personne qui restera anonyme.
Oui.
En ouverture de vos chroniques de l'homme d'avant, il y a cette note de bas de page, tout à fait essentielle. Par écrivain, je veux dire... Quelqu'un qui, en général, depuis son enfance, ne cesse de penser au texte qu'il voudrait écrire et que, le plus souvent, il n'écrit pas, dont la vie est filtrée par l'écriture qu'il en tire ou imagine qu'il pourrait en tirer. À 7 ans, il n'y a pas d'écrivain raté, ni même de mauvais écrivain. Est-ce que je peux vous demander de nous citer quelques-uns des textes que vous voulez écrire, auxquels vous pensez parfois depuis l'enfance et que peut-être vous n'écrirez pas, un peu comme Lucien dans Illusion perdue ?
Oh oui, il y a des, il y en a tellement. Par exemple, en ce moment, je pense, je pense que je ne le ferai pas. Un texte, je vis avec cette idée de raconter un texte qui serait forcément une fiction. Vous allez comprendre pourquoi, et qui serait ce qu'aurait été ma vie si je n'étais pas allé à Charlie le 7 janvier. Et ça serait forcément une fiction, parce que ce qu'aurait été ma vie si j'avais pas été à Charlie, évidemment, je ne le saurais jamais. Et je sais aussi que l'imagination qu'on peut avoir sur soi-même comme sur les autres est toujours à côté de la plaque. Elle est jamais tout à fait au bon endroit. Ça, c'est par exemple quelque chose, vous voyez, j'aimerais revenir. Moi, j'ai eu une grande histoire avec Cuba, voilà. Il y a des choses que... Il y a des romans. Par exemple, j'avais commencé un roman avant le 7 janvier qui se passait entre l'Espagne et Cuba. Qui s'appelait le Retour de Dulciné. Et je l'ai abandonné, évidemment, et je ne l'ai jamais repris. À la place, j'ai survécu, je me suis reconstruit, et puis j'ai écrit Le Lambeau. Vous voyez ? Donc, voilà. Et puis, il y en a des tas d'autres... j'avais écrit un texte que j'avais publié dans une revue qui s'appelle L'Infini il y a une quinzaine d'années et qui finalement était le début de, qui s'appelait La fin de la neige, où c'était l'histoire d'un type dans un bureau scientifique qui était chargé d'observer la fin de toute chose. Par exemple, ça commençait, ça c'était lié à Cuba. Il observait d'abord, son idée c'était, il était payé pour ça. Il allait dans les endroits où les choses, les espèces en particulier disparaissaient. Et donc par exemple, il allait voir la fin du dernier colibri. Et puis à la fin, il allait voir la fin, et c'était tout ça, c'était bien avant qu'on parle du réchauffement climatique. Et j'avais évidemment pas lu les rapports du GIEC. Il allait voir la disparition de la dernière plaque de neige. Et après, ce qu'il devait faire, c'était faire disparaître les mots qui correspondaient aux choses qui avaient disparu de toutes les grandes œuvres. Vous voyez, il y avait une idée de disparition. Autant dire que c'était pendant ma période dépressive. Et c'est une nouvelle auxquelles je tenais énormément, que d'ailleurs là, j'avais envoyé par la poste. Solers, à l'infini, l'a pris tout de suite. Et c'était pour moi le début d'une suite. C'est-à-dire j'aurais voulu décliner tout un tas de choses dans tout un tas de domaines que cette personne était chargée de... Alors il fallait aussi, pour qu'il puisse vraiment bien éliminer les choses des textes, il fallait qu'il éprouve personnellement la mélancolie liée à cette disparition. Donc, par exemple, je m'étais vraiment très, très bien attaché à ce que pouvait signifier son voyage au pôle Nord et à sa vision sur une passerelle de la dernière plaque de neige au monde qui était en train de disparaître, de fondre. Et ce que lui ressentait. Et voilà, ça, c'est un projet que je reprendrai peut-être un jour. Vous voyez, enfin, vous savez, dans la tête de quelqu'un qui écrit, il y a énormément de projets.
Cet été, vous disiez dans Vanity Fair, je ne me vois pas recommencer à écrire un roman de plus, comme si rien n'avait eu lieu. Mon rapport à la fiction est perturbé. Peut-être que ce que je vis relève d'une certaine façon de la plus intense des fictions.
Bah, oui, c'est pour ça que je vous dis que les projets dont je vous parle, on dit souvent, vous savez, les écrivains racontent, quand on leur pose la question que vous venez de poser, des histoires qu'au fond, ils n'écriront jamais. Et l'histoire qu'ils vont vraiment écrire, ils n'en parlent pas. Ce qui est vrai aussi pour moi, sans doute. Ce qui est certain, c'est que ça a perturbé, non seulement comme auteur, mais comme lecteur, le rapport que j'ai à la fiction. J'ai beaucoup de mal à lire des fictions où j'ai le sentiment, si vous voulez, qu'on me raconte une histoire de plus. Et ce que ça veut dire, c'est que ça n'a rien à voir avec le talent. Je peux très bien reconnaître le formidable talent d'un écrivain, mais très souvent, ce qui m'arrive, c'est qu'à un moment donné, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il me raconte ça? Et quand j'ai pas la réponse, ou quand je ne sens pas la réponse, ben, je laisse tomber. Par contre, j'ai beaucoup moins ce problème avec les mémorialistes, en fait, les gens qui racontent leur vie. Il y a des gens qui disent, ah, ils racontent sa vie sans... Moi, je comprends pas, c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Les grands écrivains, les bons écrivains qui racontent leur vie, je trouve que c'est formidable.
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Sur plusieurs choses à la fois. Donc, et puis j'écris des articles. Donc, on est journaliste. Un jour, on l'est toujours. Hein.
Toujours dans vos chroniques de l'homme d'avant, Philippe Lançon, il y a une autre définition de l'acte d'écrire qui emprunte cette fois à l'imaginaire de Noël. Puis-je vous demander, pour terminer cette émission, de nous la lire ?
C'est quoi un écrivain ? C'est d'abord un homme seul. Il descend par la cheminée, avec son stock d'illusions perdues et retrouvées par la phrase, elle et rien d'autre. Mais, contrairement au vieux Nicolas, il ne vient pas à date fixe. Un écrivain n'est attendu par personne. Il vide sa hotte dans la nuit, malgré tout, malgré lui, parfois, des cadeaux qu'on n'a pas demandés. Et il retourne là où les autres ne vont pas, ne veulent pas aller, parce qu'ils ont peur d'être seuls. À l'aube, avant le réveil des adultes, des gens sérieux, les premiers debout ouvrent les paquets. Ce qu'ils découvrent n'est pas ce qu'ils avaient commandé. D'abord, ils sont surpris, déçus, presque furieux. Mais peu à peu, ils s'intéressent, s'enthousiasment, se concentrent. Et finissant par oublier le reste, tout ce qui était prévu, foire aux dindes et sapins en bois de cercueil, ils ne font plus travailler leur imagination qu'avec ces cadeaux insolites, encombrants, comme les enfants font et refont le monde avec les emballages.
Merci beaucoup, Philippe Lançon.
Merci à vous.
La Nova Book Box, c'est déjà fini. Je vous rappelle que la première partie de cet entretien avec Philippe Lançon est à réécouter en podcast sur nova.fr. Cette émission, comme la précédente, a été réalisée par Sullivan Clabot avec l'aide de Tristan Guérin à l'enregistrement. Programmation musicale, Michael Lio. La semaine prochaine, je recevrai deux des trois jeunes créateurs de la série télévisée L'Effondrement, diffusée en novembre sur Canal+. Et depuis disponible sur YouTube, sur la page de leur collectif Les Parasites.
avec Bastien Huguetto et Guillaume Desjardins, je parlerai de ce monde qui s'écroule, le nôtre, et ce que cela crée comme idée, comme fiction, de Barjavel à Cormac McCarthy, en passant par Robert Merle ou les penseurs contemporains de la collapsologie, comme Pablo Servigne. Mais avant l'apocalypse en cours, il faut déjà aller jusqu'au bout de ce dimanche, jour qui fut chanté jadis, enfin pas très loin, c'était en 2011, par ce philosophe de pop synthétique nommé Sidney Vallet. On se quitte avec sa chanson « Dimanche » que je vous souhaite, chères auditrices, chers auditeurs, excellent. Et n'oubliez pas, comme l'a dit Jodorowsky, d'une peau de tigre accrochée au mur, nous ferons des tigres.
Aujourd'hui, c'est dimanche. Je me réveille et regarde par la fenêtre le ciel blanc avec quelques toits. La tête encore dans le brouillard de la veille, on essaye de réfléchir, mais on n'y arrive pas. On se laisse absorber par tout ce qui nous entoure, on vit un rêve, on vit le rêve du dimanche. Je me demande ce que je vais faire, peut-être aller au cinéma, me recueillir devant des images grandioses. On est peut-être courir dans les parcs, regarder droit devant soi, l'arbre, le ciel, se concentrer, humer l'air de l'automne, vivre une expérience transcendantale, ne faire qu'un avec la nature, ressentir les bruits, perdre son âme, perdre ses soucis. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est merveilleux, on se balade dans les parcs, on est amoureux. Être débordant d'amour. Avoir les larmes aux yeux de cette expérience. Se sentir bête, un peu naïf, mais garder ça comme un trésor. Que le lundi viendra pour vous. Tranquillement à la maison, et ni un livre. J'essaye de faire le vide dans mon esprit, et bois du thé minceur, en mangeant des légumes verts, biologiques. Il s'agit de cesser toute activité, et aborder ainsi le corps purifié de toutes les merdes qu'on a ingurgitées le vendredi et le samedi soir. J'en ai marre de ce temps divisé en moments d'activité, de repos. Vacances, non vacances, travail, non travail, dimanche, non dimanche. Dimanche devrait être le jour de tous les jours. Tous les jours devrait être, non. Tous les jours, dimanche.
Jukebox, c'est comme un jukebox, mais avec des livres.